Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Le journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou, quatrième épisode, Ariane V.
Jeudi 22 décembre 2005 à 22h34. Chers artistes utopiques, amis crédules, voyageurs intergalactiques, prêtres exorcistes, terriens terre à terre ou encore humains humainement original, vous êtes chaleureusement accueillis sur ce splendide skyblog. Il serait, je crois, impossible de résumer ce blog en 9 mots plus ou moins significatifs qui pourraient être les suivants. Introspection, photographie, littérature, théologie, psychologie, sociologie, philosophie, psychanalyse, art global.
Ce qui caractérise le journal intime d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas intime, justement.
Je m'appelle Ariane, j'ai 32 ans.
Ariane a tenu un skyblog qu'elle a ouvert en 2005, alors qu'elle avait 13 ans.
J'avais quelques petits journaux, mais vraiment très peu. J'ai commencé directement sur Internet.
Elle le signe Harry666. Le journal de ma vie, épisode 4. Ariane.
C'était un skyblog, donc c'était aussi toute une esthétique particulière.
Vous vous souvenez peut-être qu'au début des années 2000, la radio Skyrock a proposé un service internet sur lequel n'importe qui pouvait se créer un espace personnel. À l'époque, c'était une révolution.
Il y a plein de couleurs. Il est rose, il y a du violet, fuchsia.
Si vous avez visité des skyblogs, vous vous rappelez forcément ces pages sur fond noir, avec une typographie Comic Sans MS. La typo des adolescents. Sans oublier bien sûr les photos, les petites maximes. Et l'inévitable papillon arc-en-ciel dont les ailes palpitent dans un coin de la page.
Sur Skyblog, il y avait les statistiques. Donc on pouvait savoir par mois et même par jour combien de personnes venaient sur notre blog.
Le blog, c'est le premier pas vers les réseaux sociaux et les existences virtuelles que nous connaissons aujourd'hui.
Je gravitais autour de 800, entre 800 et 1000 personnes par mois à peu près, ouais.
Où le moi numérique qu'on présente au monde est une version de nous-mêmes à la fois fantasmée et pétrie de réel.
J'étais pas une star, hein. Donc il y avait des skyblogs qui avaient beaucoup plus de vues, ça c'est sûr.
À partir de 2008, Facebook sort en version française et détrône très rapidement les 12 millions de skyblogs existants. Ariane, elle, ne fermera le sien qu'en 2020.
Je cherchais surtout à m'exprimer. Après, qu'il y ait une personne ou 10 000 qui me lisent, je crois que c'était pas vraiment mon problème, en fait.
Le skyblog d'Ariane me fascine, parce qu'il s'adresse à l'univers. Et ce qui est troublant, c'est que son ardeur et sa sincérité ne semblent pas affectées par l'idée qu'elle a des millions de lecteurs potentiels. Il faut dire qu'entre 15 et 20 ans, Ariane a un but précis.
Je m'appelle Ariane, j'ai 17 ans, j'écris pour changer le monde. Et peut-être que vous aussi.
Le journal que vous allez entendre aujourd'hui est donc tout entier tendu vers un objectif à la fois mégalomane et enthousiasmant, créer un monde meilleur. Dès lors, la question qui obsède Ariane, et nous aussi un petit peu, c'est comment va-t-elle s'y prendre ?
Au niveau du contenu, c'est toutes mes pensées, c'est tout mon univers, un peu torturé, je vais dire quand même, de collégienne, lycéenne. Je suis un être humain, une athée baptisée catholique, née dans le Vaucluse à Avignon, le 2 mai 1992. Je suis française par conséquent. Je suis dans une école chrétienne, j'ai toujours aimé les extrêmes et surtout dans les religions. Et par conséquent, j'ai toujours été passionnée par le christianisme et le satanisme. Jusqu'à me rendre compte que le satanisme développait une philosophie extrêmement plus crédible que celle du christianisme. Et à ma grande surprise, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas la philosophie que la société, les médias et la religion lui associaient. C'était totalement autre chose, une philosophie intelligente basée sur les instincts naturels de l'être humain, un individualisme éclairé où l'ego se réalise pleinement. Oula, bah là quand je lis ce que j'avais écrit, je me disais que j'étais quand même un peu torturée, enfin c'est le mot qui me vient, mais en fait j'étais dans un collège catholique et je me suis mise à vraiment écrire de l'autobiographie, peut-être en réaction à ce que je vivais au collège et pour exprimer tout ce que je pouvais pas exprimer en fait à des personnes, je l'exprimais par l'écriture. Les autres collégiens étaient pas forcément dans le même délire que moi en fait sur le fait de rentrer dans des conversations sur la religion de manière un peu. Je me suis beaucoup intéressée au gothisme, au satanisme. J'ai eu toute une période où, comme je comprenais pas le christianisme, j'essayais d'aller voir un peu à l'opposé, on va dire. Marilyn Manson, c'est la rockstar par excellence. Je crois que je donnerais tout l'or du monde pour avoir un destin semblable au sien, avec ma propre histoire. Mais je crois que c'est tout bonnement impossible pour une seule et unique raison. Pour devenir comme Marilyn Manson, il faut son histoire. Et être américain peut être aussi utile. Regardez Manson, sur quoi fonde-t-il sa gloire ? Sur la critique d'un christianisme extrémiste et d'une société puritaine. Est-ce que Manson a changé le monde ? Un peu, je dirais, mais il n'a pas vraiment changé la réalité du monde. C'était une figure importante, j'avais des posters de lui dans ma chambre. Je dirais que Marilyn Manson, il m'a aussi... C'est un peu par lui aussi que j'en suis arrivée à me questionner sur le satanisme et à avoir un peu un point de vue un peu sombre sur le christianisme. Bon, mais c'était pas... Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Enfin, et bon, voilà, j'étais jeune. Mais oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencée intellectuellement aussi. Et puis même musicalement, j'écoutais beaucoup. Enfin, il y a tellement de choses que je comprenais pas que voilà, j'avais besoin de partager mes idées et j'avais l'impression de m'adresser en fait un peu au monde entier en postant sur internet quoi. J'attendais toujours qu'on me contacte en fait. Je crois que c'était de rencontrer des personnes avec qui j'allais raisonner et avec qui je pourrais créer du lien. Je pense que je cherchais vraiment aussi à créer du lien chercher quelqu'un qui me comprenne en fait, qui puisse me comprendre. C'était comme des bouteilles à la mer un petit peu.
Malheureusement pour Ariane, il est assez rare que le monde entier réponde à nos messages. Alors, elle élève elle-même les objections que ce monde pourrait lui faire. Elle écrit « Quand je dis aux gens je vais changer le monde, je vais être l'anti-héros dont ce monde a besoin pour être sauvé. »
Bien sûr, leur première réaction est « c'est impossible, Ariane. » Et moi je vous dis que ce n'est pas impossible. Avec beaucoup de volonté, de motivation et un peu de chance, on arrive à tout. Après on me demande « et tu vas changer quoi ?» Et c'est là que je me mets à leur expliquer toutes mes idées, ma philosophie et tout le bazar. Et voilà, bah j'étais une jeune fille très introvertie, qui avait du mal à être en lien avec les groupes au lycée. Donc j'étais plus dans des relations avec une seule personne, j'avais une amie à chaque fois, dans ma classe en général. Et je parlais pas beaucoup, et en même temps j'avais beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'écrivais, en fait.
Derrière ces silences, Ariane se creuse les méninges. Le futur n'est pas une mince affaire. Et parce qu'elle a 15 ans, l'avenir du monde et son avenir personnel sont inextricablement mêlés. Elle écrit.
Mercredi 15 mars 2006. Après mûre réflexion, j'ai pensé que le mot globe-trotteuse était mieux approprié que bédouin pour mon projet post-bac. Bédouin, ça fait vraiment berbère, vous comprenez. Quand on me demande ce que je veux faire plus tard, cela varie entre rockstar bédouin et artiste rockstar écrivain. Rockstar, ça c'est l'ambition profonde. Être rockstar, c'est se lever tous les matins en se disant avec conviction « Aujourd'hui, je vais changer quelque chose dans le monde. » C'est vouloir partir de rien et revenir avec un tout. C'est vouloir conquérir le monde avant même de lui avoir donné la moindre goutte d'or. Finalement, c'est aussi avoir un ego surdimensionné en se servant de la misère des autres pour faire sa propre ascension sociale. Ça y est, vous êtes une rockstar. Vous avez atteint votre but. Vous proposez des idéaux démentiels auxquels la France entière peut adhérer. D'accord, mais le monde, lui, pourquoi n'a-t-il toujours pas bougé ? J'appellerais cette situation une prise de pouvoir égocentrique, mégalomaniaque. Non, je serai globe-trotteuse, je serai globe-star. Oui, globe-star, le voilà mon métier. À l'époque, je m'habillais quand même gothique. Du coup, j'étais souvent en noir quand même. Après, ça pouvait être aussi très coloré. J'étais un peu dans le gothique Lolita aussi, avec du rose, avec des jupes, des petites jupes. Un peu comme Avril Lavigne aussi, dans l'esprit un peu punk. Et j'aimais beaucoup la couleur rose. J'étais quand même dans une période un peu... J'étais souvent triste, un peu sombre quand même. Et en même temps... colorée, enfin, j'étais un peu entre spleen et idéal, quoi. J'avais ce côté romantique, en fait, un peu à la Baudelaire. Ouais, j'avais vraiment ce côté un peu 19e siècle. C'est un peu ça le gothisme, en fait. Hein. C'est très inspiré du romantisme noir et le spleen, tout ça, la mélancolie, des choses comme ça.
Le problème d'Ariane, c'est que, contrairement à Avril Lavigne, elle est obligée d'aller au lycée. Mais les longues heures d'ennui que tout élève emploie à s'évader en regardant par la fenêtre, Ariane les consacre à se projeter dans le futur. Elle écrit. 30 avril 2007. Alors que ma prof de mathématiques essayait de nous apprendre avec hargne et passion combien faisait 298 plus 476 moins 667 au carré, je partais dans mes rêves, souvent en fixant un point précis et me demandais « Qu'est-ce que diable je faisais ici ?»
Je regardais par la fenêtre et je m'imaginais des champs immenses de fleurs et d'herbes fraîches et dessus, des enfants respirant la joie de vivre, respirant la fraîcheur du monde en phase avec la nature. Je vois et j'admire une belle jeunesse épanouie et pacifique, vivant en harmonie dans la paix et le respect de l'autre, où les mots racisme, xénophobie, pression, stress et tristesse n'existent pas. Je me propulse dans un futur pas si éloigné que ça et je vois un chaos social. Une terre dévastée de toutes ses ressources naturelles, où des nuages noirs peuplent un ciel qui n'est plus bleu. Je vois des enfants dont la peau n'est qu'une étendue de chair d'imperfection, enfermés chez eux ou à l'école, trop fragiles pour pouvoir supporter les 60 degrés d'un soleil de plomb cruel, et pleurant leur misérable sort, ainsi que leur pauvre père, qui n'obtiennent plus que comme salaire de fin de mois 10 misérables litres d'eau pour survivre et faire vivre une famille entière. Je regarde cette scène chaotique où je suis présente, et une petite fille s'approche de moi et me demande « Pourquoi dois-je porter un masque pour pouvoir aller à l'école et ne pas suffoquer à cause de la pollution ?» Toi qui savais, pourquoi n'as-tu rien fait contre ce chaos social ? Je regarde la petite fille droit dans ses grands yeux rouges. Je lui pleure à mon tour une larme bleue et d'un ton honteux et indigné, je lui réponds. Petite fille, écoute-moi. Si je n'ai rien fait pour que toi aussi tu puisses courir dans les immenses champs de fleurs, c'est parce que la société dans laquelle j'ai grandi était trop occupée à m'apprendre les lundis de printemps que 298 plus 476 au carré moins 666 moins 667 au carré était égal à 774. Ah oui, alors ça, je me souviens de ce texte quand je l'ai écrit. Et là, je me suis inspirée d'une chanson de Mickey 3D qui s'appelle « Il faut que tu respires ». J'avais vu le clip. Comme je voulais changer la société, comme je voulais changer le monde, je me sentais touchée par les injustices déjà beaucoup. Je sentais qu'il y avait quand même un vrai problème par rapport au climat et questions environnementales, par rapport à la survie de l'humanité. J'étais pas dans un milieu de militants, pas du tout en fait. Et je pense que du coup c'est pour ça que moi j'essayais de partager un peu des idées comme ça. Je voulais changer ma réalité en fait déjà. Aller au lycée, au collège tous les jours, apprendre des choses qui me faisaient pas vibrer. Enfin, je me sentais pas assez vivante, en fait. Je pense que je m'ennuyais. 3 mai 2009. J'ai 17 ans depuis hier. C'est malheureux, mais je m'y fais. Cela fait plus de 3 ans que j'écris. Et aujourd'hui, dimanche 3 mai 2009, minuit 50, veille de la rentrée, je peux vous affirmer que cette année de mes 17 ans ne sera pas ma dernière année d'écriture. Merci. Merci pour tout. Croyez en la vie et la vie croira en vous. En fait, j'ai toujours rêvé d'arrêter d'écrire. En fait, parce que je me disais que tant que j'écris, bah, c'est qu'en fait, dans ma tête, c'est que je suis quand même un peu, il y a quelque chose d'un peu lourd. Et je me suis toujours dit, ben oui, arrêter d'écrire, c'est vraiment rentrer dans une liberté. En fait, ça signifierait pour moi qu'il y a plus rien qui me pèse et voilà.
Entre écriture et questionnement, Ariane finit par passer son bac et entre en fac de lettres. La rencontre avec des semblables devient possible. Elle écrit. Un jour, dans le couloir, je remarque une fille. Je me dis.
Elle, c'est sûrement une artiste. Au premier abord, elle me fait un peu penser à moi. Pendant tout le cours, je me dis qu'il faut que j'aille lui parler. Je pourrais lui passer mon blog, oui, ça c'est une bonne entrée en matière. La fin du cours sonne, j'ai le cœur qui bat, une peur incroyable. Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Pourquoi suis-je si impressionnable ? Et puis, finalement, l'improbable se produit. Elle se lève. Elle s'approche de moi. « J'adore tes chaussures, » me dit-elle. J'avais mes New Rock à flamme. « Merci, j'adore les tiennes aussi, » répondis-je. Elle avait des Doc Martens bleus à talons. Une autre fille fit irruption. « J'adore tes New Rock, j'en cherche aussi. Tu les trouves où ?» dit la jeune fille qui fit irruption dans notre conversation. « Chez Idols, rue Carnot, ils en vendent. C'est 189 €, celle que j'ai. » Ah ouais, quand même. Eh ouais. Pendant le cours, nous parlons de choses et d'autres. Tu voudrais faire quoi plus tard, me demande-t-elle. Écrivain globe-trotteuse, et toi? Pareil. À ce moment-là, j'ai compris que nous nous comprenions. Parler de mon blog, c'était une façon pour moi d'ouvrir mon univers et de... Je me disais peut-être que les gens vont lire et vont être touchés et peut-être que cette personne va devenir ma meilleure amie. Enfin, voilà, je crois que j'étais quand même en recherche d'amitié à l'époque. Puis ce blog, ça faisait tellement partie de mon identité, en fait. J'avais l'impression de donner mon identité aux gens, en fait. Et que finalement, c'est... me lire, c'était accéder à moi, en fait.
Ariane s'ouvre aux autres, mais elle n'oublie pas son but, changer le monde. Et elle envisage une nouvelle façon de l'atteindre.
26 septembre 2010. Ce matin, je pensais à ma bonne vieille Maxime, vous savez. Je m'appelle Ariane, j'ai 18 ans et j'écris pour changer le monde. Je me suis rappelée que j'avais justement 18 ans. Et soudain, j'eus comme une illumination, fonder une association. Mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Alors voici mon plan. Je fonde une association dont le nom ressemblerait à quelque chose comme ça. Ensemble pour changer le monde. Ou Ensemble pour un monde meilleur. Ou encore Association des artistes qui luttent pour un monde meilleur. Bref, quelque chose du genre. Le but serait, dans un premier temps, de promouvoir des artistes engagés. Artistes dans tous les domaines. Nous voyagerions un peu partout dans le monde pour savoir vraiment ce qu'il est. Nous irions surtout en Afrique pour être sensibilisés à la véritable misère. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, même si vous n'habitez pas à Avignon. Ah oui, ben là, je venais de rentrer à l'université à cette époque-là. Et effectivement, j'ai créé une association qui s'appelait La Vague. C'est le moment où je passe à l'acte, en fait. Je sors un peu de ma tête et j'entre un peu dans le concret. Et ça m'a permis de sortir de la timidité et de créer du lien aussi avec ma classe d'une manière nouvelle. Je suis sortie de ma bulle, quoi, à ce moment-là.
Cette association, La Vague, créée avec un ami, sort Ariane de la solitude. Pourtant, elle continue de s'adresser à la femme qu'elle veut devenir. Elle écrit.
21 septembre 2010. Ariane, ce soir, je me suis presque sentie obligée de t'écrire. À toi, toi, mon futur moi. Comment te dire ? Je sens le temps passer. De plus en plus, à chaque jour qui passe. Et cela me fait peur. Qu'es-tu devenue aujourd'hui ? Que suis-je devenue ? Ariane, je t'écris cette lettre parce que je ne veux pas que tu changes. Tu entends, je ne veux pas que tu changes. Ariane, quelle est ta vie à ce jour ? As-tu publié des livres ? Es-tu devenue prof ? Je t'écrirai désormais fréquemment et je transmettrai ces lettres à un notaire pour qu'il me les remette au moment venu. Ariane, je t'en prie, deviens ce que tu es. Je t'embrasse, je t'aime, toi-même à tes 18 ans. Je crois que j'avais contacté un notaire. J'avais pas eu de retour, mais non, j'ai pas fait ça. Mais par contre, j'ai publié un livre, même plusieurs.
Qu'est-ce que vous répondez à cette Ariane de 18 ans ?
J'ai envie de lui dire qu'elle s'inquiète pas, parce que j'ai pas changé. Je pense que je me suis améliorée, on va dire, parce que c'est vrai que quand je relis ce que je disais, je me dis, mais... J'ai l'impression d'avoir un ego surdimensionné à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ben, j'ai mis beaucoup de clarté en fait sur plein de choses et ouais, non, je suis contente de mon parcours. J'ai publié mon mémoire de master 2 dans une maison d'édition en fait quand j'avais 23 ans. Ça m'a lancée comme conférencière. Donc le sujet de mon mémoire, c'était les créatifs culturels, ces personnes qui changent le monde, quoi. Quand j'ai quitté l'université, je me suis dit bon ben. Maintenant, je vais faire le tour du monde, quoi. Ça fait des années que j'en parle, tout ça. Et il se trouve, en fait, que j'ai été un peu retenue à la France parce que j'ai été candidate aux élections présidentielles. En 2016, il y a une initiative qui s'appelle laprimaire.org. Et le projet, c'était de faire émerger un candidat citoyen aux élections. Tout le monde pouvait s'inscrire et voilà. Et moi, je me suis inscrite sur cette plateforme pour présenter les idées que j'avais développées dans mon livre sur les créatifs culturels. Et je suis arrivée parmi les finalistes.
En fait, ce qui est beau chez Ariane, c'est qu'elle n'abandonne jamais. En 2016, dans son programme de candidature aux élections présidentielles, elle écrit « Tout le monde devrait être en mesure de s'exprimer à travers l'art, la culture, le travail. J'aspire à ce que tout individu devienne responsable et créateur de sa vie. »
Il y avait 12 finalistes et au départ, il y avait, je crois qu'il y avait 400, 500 personnes qui étaient inscrites en fait. Voilà. Et au final, c'est Charlotte Marchandise qui a gagné le processus. Mais voilà, ça a été une aventure dans ma vie. Et finalement, en fait, c'est là que j'ai créé mon projet Un Monde Réenchanté.
Ariane termine ses études à un moment où beaucoup de gens cherchent à concilier capitalisme et soucis de l'avenir. Les entrepreneurs sociaux sont en vogue et on cherche des idées nouvelles à grand renfort de labels en anglais.
Mon université avait lancé un accélérateur de projets, enfin une sorte d'incubateur, qui s'appelait Better Life Factory. Et j'avais participé quelques années plus tôt à une expérience qui s'appelle Ticket for Change. Et j'avais fait un tour de France à la rencontre des entrepreneurs sociaux. Et c'était un des moments les plus magnifiques de ma vie. Et finalement, à partir de là, mon projet de faire un tour du monde s'est transformé. Et je me suis dit, en fait, je vais permettre à des jeunes aussi de partir. Voilà. Donc le projet, en fait, c'est on part dans différents pays du monde avec des groupes de 10 jeunes qui vont vivre un processus en 3 phases. Inspiration, introspection, action.
En fait, ce qui m'a frappée quand Ariane m'a expliqué ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a trouvé une très bonne manière de ne pas abandonner son projet. Elle encourage d'autres personnes qu'elle à rêver de changer le monde. Des personnes qui ont l'âge qu'elle avait quand elle a elle-même commencé à rêver. Elle écrit. 23 janvier 2012. Je me suis changée moi-même, vous savez. Vraiment. C'est pour ça que je me préoccupe
beaucoup du monde en ce moment. Je me dis qu'il faut bien que je fasse quelque chose d'utile et de bon dans ma vie. Au fond, je veux juste une chose dans la vie. Tel Jacques Brel, je veux être un grand homme. Quand je relis, je me dis, mais je suis complètement mégalo. Mais en fait, j'avais envie de voir grand, dans le sens positif du terme aussi.
Aujourd'hui, Ariane a 32 ans. Elle continue de tenir un blog, même si ce n'est pas un skyblog. Et à sa manière, elle continue aussi d'essayer de changer le monde.
Avec le temps, j'ai gardé quand même l'envie d'avoir un impact à large échelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien si je me suis présentée aux élections. Enfin, même mon projet Un Monde Réenchanté aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour moi est grand et a de l'impact. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai pas changé vraiment de pratique. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai commencé une pratique et que je continue encore aujourd'hui. Et ça fait partie de mon identité. Vraiment, c'est le fait d'écrire de l'autobiographie, comme ça, enfin, du journal, en fait. Donc, du coup, c'est sauvage, quoi. C'est une pensée qui est sauvage et je me dis, oui, c'est très riche pour moi d'avoir ça. C'est ma vie mentale et après, c'est comme si je me regardais vivre, en fait.
Mars 2012. Je m'appelle Ariane. J'ai bientôt 20 ans, j'écris. Je m'appelle Ariane. Je produis quelque chose. Quelque chose dans laquelle je mets toute mon âme, toute mon espérance, toute ma conviction, toute ma force. Je ne nomme pas cette chose, mais je la résume ainsi. J'écris. Et parce que j'écris, ma vie n'est pas vaine. Et parce que j'écris, je lutte contre mes propres contradictions, contre mes propres angoisses, contre mon propre néant. Parce que j'écris, j'entre en résistance contre ma propre finitude, contre cette finitude qui me bouleverse, me terrorise, me traumatise.
C'était le journal de ma vie, 4e épisode avec Ariane V, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross, mixée par Olivier Arnay, avec une musique de Rebecca Warrior. Merci à l'Association pour l'autobiographie, à Cyrus Mohammadi, à Valentin Rémy et à Luce Mourant.
Yeah.
chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.